RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La radio, c'est RMC, la télé, c'est RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. De 9h à midi tous les jours, vous écoutez et vous regardez les GG, les grandes gueules. Nous sommes revenus en direct depuis la semaine dernière. Vous avez le 32-16 toujours à votre disposition pour réagir, pour discuter avec les GG. Aujourd'hui avec Fatima Hidbounois, la professeure de français, nous sommes avec l'avocat Charles Consigny. Et puis avec Antoine Diers, le consultant juridique. On attaque la deuxième heure des GG, des grandes gueules, avec comme sujet de discussion, faut-il absolument une loi sur les réseaux sociaux? Elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, la loi d'interdiction pour les moins de 15 ans, vous savez, au nom du principe de la liberté. Mais le président y tient, il veut une loi robuste. Là, et Gabriel Attal, il veut même un référendum sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Franchement, est-ce qu'il la faut absolument, cette loi? Vous venez en parler tout à l'heure à 11h-20. À 10h20, la piste évoquée la semaine dernière semble être la bonne pour faire des économies. On va aller vers la non-indexation des retraites pour les plus aisés. Alors on est toujours sur cet étiage, sur ce chiffre, ce revenu de 3000 euros. Est-ce que oui ou non le gouvernement doit taxer les retraités à partir de 3000 euros? Enfin pas les taxer, mais plutôt les indexer sur l'inflation. 32-16 pour en discuter avec les GG. Mais d'abord on va s'intéresser à Jean-Luc Mélenchon qui est très à l'offensive en ce moment, parce qu'on touche aux personnalités montantes de la France insoumise, Baïli Bagayoko et Aliou Diarra. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y en a assez de taper sur le maire de La Courneuve, Ali Diouara, et sur le maire de Saint-Denis, Baïli Bagayoko. Selon lui, ils font l'objet d'un racisme systémique de la caste. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Noir et LFI, c'est trop pour les suprémacistes médiatiques. Voilà ce qu'il dit, ils font l'objet d'un racisme systémique. Est-ce qu'il a raison, Jean-Luc Mélenchon? Oui ou non? 32-16 pour le dire aux grandes gueules, Antoine Diers, Charles Consigny et Fatima Hidbounois. Fatima, qu'est-ce que tu en dis? Il a raison ou pas?
Moi, je trouve que Baïli Bagayoko se défend mieux sans Mélenchon. C'est-à-dire que depuis le début, sur Instagram notamment, je le suis, je regarde ce qu'il fait, et lui, il répond par du concret. C'est-à-dire, il fait vraiment les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, moi, je vous parle de politique, 100 jours, regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que je vous propose, des faits, du concret, et je pense que c'est cette ligne-là qui sera payante. Ça veut dire que il est pas en train de commenter les biais racistes, parce que c'est compliqué de prouver des biais racistes, et en fait, ça fait perdre beaucoup de temps de parole, d'énergie. Et quand t'es politique, t'as pas le temps pour ça, parce qu'après on peut toujours te dire tu te victimises et tout ça. Donc pour moi c'est une mauvaise stratégie, voilà. Et en plus pour Mélenchon ça donne un petit côté touche pas à mon pote. Vous voyez, touche pas à mon pote, on parle pour le pote. Et moi j'ai du mal avec ça lorsqu'on parle pour. Je préfère quand on donne la parole. Donc voilà, je préfère écouter directement Baïli Bagayoko et je trouve que c'est pas mal sa façon de communiquer avec voilà, je vais vous montrer ce que je fais dans ma ville et puis dire fait rire, faire fêter. Je préfère ça.
Charles.
Sur Bagayoko, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques, mais qui sont quand même nées d'actions qu'il a prises lui-même.
Et puis de la polémique là sur son emploi à la RATP aussi.
Plus son emploi fictif, etc.
On ne sait pas s'il est fictif.
Voilà.
Il y a une enquête.
Son emploi fictif.
Le parquet national financier, il y a une plainte.
Je pense qu'il y en a pas mal quand même des emplois fictifs à la RATP.
Et on verra s'il se saisit de l'affaire.
Le RATP, ouais. Dans beaucoup d'administrations.
D'après nos confrères du Parisien qui s'appuient sur un livre, il y aurait 200 personnalités, droite, gauche, centre confondues, personnalités politiques, qui émargeraient à la RATP.
Voilà. Je pense, si tu veux, qu'il y a plus d'emplois fictifs dans le public que dans le privé. Donc, à élucider. Quant à Ali Diawara, honnêtement, moi, j'avais pas observé qu'il, mais peut-être que j'ai pas été attentif, mais j'ai pas vu qu'il fût au cœur des polémiques et qu'il fasse l'objet de...
C'est sur son logement. Il bénéficie d'un logement social, alors qu'il est député. Lui-même dit qu'il a cherché dans le privé, mais qu'il n'a eu que des refus et qu'il est dans les clous en gardant son logement social. Alors qu'il est à plus de 7500 euros.
Si tu veux, je pense que, Autant, voilà, la France est diverse, il faut que ses élus ressemblent à ce pays aussi, même si moi, je considère que les critères de couleur de peau, de religion, d'origine géographique, etc., ne devraient pas entrer en ligne de compte. Et je trouve que Mélenchon, à la fois, certes, on peut lui reconnaître le fait qu'il il est un des rares responsables politiques à faire monter, entre guillemets, des gens issus de la diversité, pour parler comme on parle aujourd'hui, même si Sarkozy l'avait fait un peu avant. Bon, mais là, il y a quand même vraiment des maires de grandes villes, etc. Donc, il n'investit pas comme candidat, toujours les mêmes vieux barons. Il renouvelle un petit peu, on peut lui reconnaître. Sauf que je trouve que il excite beaucoup aussi, il joue beaucoup cette carte-là, et finalement, en prétendant lutter contre le racisme, en réalité, je pense qu'il l'alimente à la fin, parce que lui-même met de l'huile sur le feu. Ça me fait penser, à une époque, on citait beaucoup ce mot du philosophe Baudrillard, Jean Baudrillard, qui disait SOS baleine sert à sauver les baleines. Je me demande si SOS racisme ne sert pas à sauver le racisme. Et j'ai un peu ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'il en rajoute pour s'assurer le vote communautaire. C'est ça qu'il cherche à la fin, Mélenchon. Et ça,
les mots qu'il emploie, c'est dur quand même, les mots, hein, quand il parle de la caste médiatique, des suprémacistes médiatiques, tu vois, c'est du trumpisme dans l'autre camp, si tu veux, en étant dans l'outrance. On le sait, hein, il dit je suis le bruit, la fureur, la colère.
C'est pas ça continue. Sur le service public audiovisuel qu'il y a des suprémacistes médiatiques, hein. Au contraire, tous les mâles blancs de plus de 50 ans se sont fait virer de l'audiovisuel public parce qu'ils étaient blancs. Et qu'ils avaient plus de 50 ans. J'ai pas entendu Mélenchon là-dessus.
Antoine.
J'arrive à ta conclusion, Charles. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train de préparer le conflit racial qui minera notre pays. Jean-Luc Mélenchon est le plus raciste de tous parce qu'il a une vision raciale de tout. Ce n'est pas parce qu'on interroge...
Il a théorisé maintenant la créolisation de la France, la nouvelle France, mais en même temps, parce que ça correspond à quelque chose aujourd'hui qui est réel dans le pays. Le pays, il est multiculturel, multiculturel.
Bah non.
Et il est bigarré, il est coloré comme la France ne l'a jamais
été. Pas multiculturel. Il n'y a qu'une seule culture, Alain, dans notre pays. Il y a une culture française et une culture républicaine. Et le jour où on doit basculer dans un multiculturalisme, ce sera le multiconflictualisme. Et Jean-Luc Mélenchon est en train de nous préparer ça. Jean-Luc Mélenchon est en train de nous dire que ces deux élus à qui l'on pose légitimement des questions, on ne devrait pas leur poser ces questions-là parce qu'ils sont noirs. Il y aurait donc une immunité par la couleur de peau. On pose la question à ces élus de la même manière qu'elle serait posée à tous les autres. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, invente un racisme parce que c'est son fonds de commerce. Et en réalité, Jean-Luc Mélenchon est en train d'exploser le pays. Il a dit tout blanc, tout gris, là, tout. Non. Voilà. Tout blanc, tout manche. Il y a une haine anti-française développée par Jean-Luc Mélenchon dans un seul but de faire de la politique. Et ça, c'est dangereux. Et donc, j'entends tous les gens qui beuglent en disant, le Rassemblement National, c'est dangereux. Non, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est dangereux pour la République aujourd'hui. Non,
juste pour revenir sur un point. Parce que très souvent, quand on parle de ces questions-là, on a l'impression d'avoir d'un côté ceux qui sont pour l'universalisme, et puis de l'autre côté, ceux qui sont comme contre l'universalisme, parce qu'ils sont en train de dire, voilà, il y a du racisme, il y a des traitements, et pour parler du racisme, on est obligé, du coup, de parler de noir, de blanc. En vrai, quand on parle de racisme, c'est pour aller vers l'universalisme. Quand quelqu'un dit, je subis du racisme, par exemple, c'est pour dire, parce que je suis noire, on me traite pas de la même manière. J'aimerais qu'on oublie ça. Parce qu'il y a des gens qui disent j'oublie les couleurs. Mais justement, on aimerait. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est quand on oublie ta couleur. C'est un idéal. Mais des fois, les gens disent, mais moi, je vois pas les couleurs. Mais dans les faits, on voit qu'il y a des biais racistes. Et à ce moment-là,
comme
on dit,
souvent, ce
attention.
Sont les gens de couleur, comme tu dis, qui utilisent l'argument.
Non, ils vont utiliser l'argument lorsqu'ils sentent que, à cause de ça, il y a eu quelque chose. Et donc, ce n'est pas pour s'arrêter sur ça. C'est une étape de réflexion pour aller justement vers un moment où on te voit pas. Tout le monde rêve. Moi, mon rêve, franchement, je me réveille. Je suis pas arabe. Non, mais juste pour dire ça. Quand t'es noir et que t'es en France, tu te réveilles, tu te dis pas, je suis noir. Mais ça va être les réactions des autres qui vont te rappeler que tu l'es. Et c'est justement à ce moment-là que tu dis, j'en ai marre qu'on me rappelle ma couleur. Parce que c'est l'idéal de tout le monde.
Tu crois que moi, il n'y a pas des réactions vis-à-vis de ce à quoi je ressemble?
Au-delà,
c'est partout pareil.
Mais je te parle pas d'un inconscient. confort. Je te parle par exemple du fait que si pour un logement tu vas avoir une forme de discrimination, et ben là ça t'embête parce que tu dis attends, moi ce que j'aimerais c'est qu'on me traite comme les autres, j'ai mes fiches de paye, je me comporte bien, comportement. Et je pense qu'on peut avoir le même idéal et qu'il faut se remettre d'accord sur l'idéal. Moi je suis pour on regarde le comportement des gens. Exactement. Et pas leur gueule.
Mais okay. Donc ça impose qu'il n'y ait qu'une seule culture française.
Et ça s'appelle lutter contre le racisme,
ça. Tout le monde partage la même culture. Mais non, il y a une question de racisme, mais elle est instrumentalisée. Dès que y en a un qui est pas français d'origine, qui obtient pas un logement, un boulot, il se dit pas que c'est peut-être qu'il présentait mal, que survêt, casquette, machin, ça donnait pas franchement envie de l'embaucher, et il c'est du racisme. Mais non. En fait, la question, c'est de partager une culture commune et d'avoir en face de soi, malgré les différences physiques, quelqu'un qui te ressemble, qui pense comme toi, qui est français comme toi. Et là, il y a plus de soucis.
Moi, je pense pas porter de survêt et de casquette, et je peux t'assurer que c'est pas du tout les rencontres physiques. C'est par exemple rien qu'au téléphone. Moi, quand je donnais mon nom, rien qu'au téléphone, et quand je me suis retrouvée sans logement, et quand j'en cherchais, le nom dit le logement est pris. T'appelles avec un autre nom, le logement il est pas pris. Et vraiment, et moi j'ai réussi à avoir des logements uniquement par la chance, parce que je suis tombée. Mais sinon, j'ai eu combien de donc c'est pas non plus un fantasme. Et je pense que la plupart du temps, moi franchement, je reçois des insultes racistes en DM, je reçois plein de trucs et je vis plein de choses. Je filme pas, je ne montre pas, parce que justement, j'ai pas envie qu'on me dise tu te victimises ni rien. Mais je peux t'assurer qu'il y a plein de gens très dignes, très forts, qui justement ne veulent pas déranger, ne disent rien et qui n'en parlent pas. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est vraiment quand c'est très très lourd et que tu dis j'en ai un peu marre de lutter en silence.
Thomas qui est avec nous. Bonjour Thomas, du côté du Val d'Oise. Bonjour Thomas, bienvenue.
Bonjour Olivier.
Qu'est-ce que vous en dit la raison dans Jean-Luc Mélenchon dans sa réplique en disant on les attaque parce qu'ils sont noirs et qu'ils sont LFI?
Mais ça c'est du Mélenchon tout craché, je veux dire. Qu'il y ait du racisme, et comme disait Fatima et Antoine, ça existe, il faut le combattre, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, Mélenchon, lui, il en fait tout un pataquès, et je suis désolé. C'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est pas parce qu'ils sont arabes, chinois. C'est pas le problème. Le problème, c'est que s'ils font des conneries, s'il y a eu des malversations, des emplois fictifs, etc., qui sont jugés, condamnés, ces gens-là, peu importe la couleur, ils doivent le payer. Maintenant, on a bien jugé Madame Le Pen, il me semble. Donc, voilà, elle a fauté, elle doit payer, c'est normal. Donc, c'est pas une histoire de couleur, moi, je suis désolé. Mélenchon,
oui, parce que là, ça lui évite de répondre sur le fond. Il n'y a pas de réponse sur le fond, vous avez raison, sur le fond du dossier, oui. Sur le fond de l'emploi à la RATP, oui.
Il sort juste un quart du racisme, encore une fois. Mais c'est des conneries, je suis désolé. Le racisme existe, et il faut le combattre sous toutes ses formes, on est bien d'accord. Maintenant, Mélenchon, pour moi, c'est un, excusez-moi le terme, un fou dangereux, parce que ce monsieur...
Non, il est. Oh non. Alors là, vous dites il est fou dangereux, sauf que il n'est pas fou. Alors il peut être dangereux politiquement pour vous, si vous voulez.
Voilà,
mais il n'est pas fou.
Tout, je suis pas physiquement, on est d'accord.
Tout est calculé au millimètre. Oui. Il a une stratégie. C'est d'ailleurs de tout. C'est peut-être la plus claire aujourd'hui. Hein, la stratégie de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un nouveau prolétariat qui existe. Il y a une nouvelle France. Il y a une nouvelle société. Et c'est cette nouvelle société qu'il veut faire émerger des nouvelles personnalités en disant, pardon, je termine mon raisonnement, Thomas, en disant aux banlieues, regardez la manière dont vous êtes attaqués, regardez la manière dont ces personnalités qui vous ressemblent, qui sont atypiques, sont ostracisées, stigmatisées, c'est parce que nous voulons le pouvoir et qu'ils ne veulent pas le lâcher. Donc voilà la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, Thomas.
Oui, mais justement, c'est ce que je dis, comme quoi il est dangereux, parce que c'est une stratégie pour moi qui n'est pas bonne.
Mais il est pas
on devrait tous rassembler, on devrait tous unis, comme disait Fatima. Bon, après, on n'est pas dans un pays de bisounours, j'en suis bien conscient. Maintenant, je suis désolé, des gens comme eux, moi, je sais que je pourrais jamais voter pour eux. Alors, je suis un peu coincé, parce que forcément, d'un extrême à l'autre. Mais à un moment donné, stop, c'est pas le racisme. Le racisme existe, mais Mélenchon, il n'a pas à se servir de ça. Ça, c'est une idée aussi pour le cas de M. Bakayoko et
M. Diwara. Ouais.
Voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de... D'abord, je pense qu'il y a beaucoup moins de racisme dans la société que ne le disent les médias ou qu'ils ne s'expriment dans les médias. Je pense qu'il y a certains médias dans lesquels s'exprime une forme de racisme et il y a beaucoup de médias dans lesquels on parle de ça toute la journée. C'est devenu presque une espèce de fonds de commerce. Je pense qu'il y en a moins que ça. Je pense qu'il y a une surreprésentation du phénomène dans les médias et je pense qu'il y en aurait moins si les médias étaient moins en boucle sur le sujet. Je pense que ce sont les médias qui bercent les gens dans cette espèce de rhétorique qui est un truc importé des États-Unis et qui est en fait une manière commode pour des journalistes nuls de se faire des chroniques, si tu veux. Quand t'es journaliste dans un média de gauche pléonasme et que tu ne sais pas de quoi parler, tu fais une chronique sur le racisme.
Oui, mais toi-même, t'en as parlé à 9h20.
Et t'as 2-3 chaînes.
Toi-même, on en a parlé, puisqu'on parlait de la haine anti-juive, de l'antisémitisme, on a parlé du racisme. Donc toi aussi, t'es un commentateur nul qui t'a qu'à trouver un sujet.
C'est pas ça, c'est que d'abord, c'est pas moi qui choisis les sujets. et ensuite je pense que là, on en a parlé parce qu'on voulait être exhaustif, si tu veux. Mais je vois bien que dans la société, c'est pas du tout aussi présent que dans les médias. Et je pense que les médias en rajoutent beaucoup et en fait alimentent le phénomène, en réalité. Je suis convaincu de ça. Les médias et les responsables politiques qui s'en servent de toutes les façons, d'ailleurs.
Ce que je vois dans la société, c'est peut-être pas un racisme, mais peut-être pas autant de racisme que ce qu'on peut dire, mais surtout un début de communautarisation, où chacun veut vivre avec des gens qui leur ressemblent. Et quand vous dites, dans le 9-3, ils ont élu des élus qui leur ressemblent, je n'ai pour ma part jamais voté pour quelqu'un parce qu'il me ressemblait. J'ai voté parce que je partageais ses idées. Et donc, en réalité, je suis pas sûr que le danger ce soit le racisme, mais c'est le fait qu'on vive séparément.
C'est pas péjoratif ce que je dis, qui leur ressemble. C'est-à-dire que
je pense
ce sont
que
des villes où on a concentré beaucoup parce que c'était la banlieue et les ouvriers et ensuite les descendants ouvriers, on les mettait en banlieue parce que les logements étaient moins chers.
On a offert des logements à des gens qui arrivaient chez nous.
C'était comme ça. Et si tu veux, ça s'est concentré et aujourd'hui émergent de ces villes justement des gens qui ressemblent plus à Saint-Denis qu'au 16e arrondissement. C'est une réalité de par leur patronyme, de par leurs origines, et ça c'est tout. Le type qui s'appelle Bakayoko Diouara, quand il voit quelqu'un qui s'appelle comme lui Bakayoko Diouara et que tu ne vois pas ailleurs, tu dis je vote aussi pour lui,
j'ai un nom de famille flamand. Mon nom de famille est d'origine flamande.
T'es à côté de la Belgique.
Bah oui, mais est-ce que je me précipite pour voter pour celui qui aurait un nom de famille flamand?
Non.
Parce que ça me ressemble.
Mais jusqu'à présent, tu as voté pour des gens qui te ressemblaient plus, si tu veux, dans l'absolu, qu'autre chose, bien sûr.
Le dernier pour qui j'ai voté à la présidentielle, il me ressemblait pas beaucoup. Tu vois.
Eric Zemmour.
Donc en fait, je ne comprends vraiment pas ce modèle.
C'était les mêmes idées.
Donc on vote bien pour des idées.
Techniquement, Zemmour physiquement me ressemble plus qu'il me ressemble à Antoine.
Donc on vote bien pour des idées.
Mais pas au niveau des idées. On dirait mon oncle.
On vote bien pour des idées. On vote pas pour un physique.
Je parlais de patronyme, de parcours.
C'est un casting, c'est plus une élection, quoi.
Mais les gens, ils ont pas voté Macron pour ses idées. Ils ont voté parce qu'il était souriant, mignon.
Il était jeune. Les journalistes étaient en extase parce qu'il était jeune.
Moi, vous rappelez cette ère-là?
Je peux dire que si Zemmour avait le physique de Macron, il serait peut-être président aujourd'hui.
On aurait évité bien des.
On a posé la question, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que Bali Bagayoko et Ali Diouara se font attaquer parce que ils sont noirs, ils sont victimes de racisme?
La question est biaisée.
Non, vous n'êtes pas d'accord à 84,3%. Il est 10h20. Dans un instant avec les juges, avec Antoine, Fatima et avec Charles, les retraites. Le gouvernement est sur la piste de s'attaquer aux retraités les plus aisés, de ne plus les indexer sur l'inflation à partir du moment où vous avez 3 000 euros. 32-16 pour en discuter avec les grands lieux.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Le 32-16 est pour vous sur RMC, RMC Story, pour discuter et débattre avec les GG, avec les grandes gueules, avec Fatima Idounois, la prof de français, l'avocat Charles Consigny, et avec Antoine Dierce, le consultant juridique, notamment pour parler des retraites et de la piste que le gouvernement ne cesse de montrer comme ça, de mettre sur le devant de la scène pour voir ce qu'en pensent les Français, la piste de la non-indexation des retraites pour les plus aisés. c'est le budget 2027 hein, qu'on est en train de préparer et donc le gouvernement songerait à ne plus compenser l'inflation sur certaines retraites. Alors le montant qui est donné, ce serait à partir de 3000 euros. Le Parisien a montré que le montant des retraites en 2027 va augmenter de 12 milliards d'euros. Toucher aux retraités les plus aisés, ne pas indexer. Voilà ce qu'en disait Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, hier sur BFM TV.
Je pense que c'est une très mauvaise idée. La retraite moyenne, c'est 1541 euros net par mois. Le SMIC, c'est 1478. Donc, ça veut dire que un couple qui aurait chacun travaillé toute sa vie avec une retraite qui est le SMIC pour l'un, le SMIC pour l'autre, il serait donc considéré comme riche et donc il serait taxé.
Ah, petite démonstration de Monsieur Breton. Alors, est-ce que le gouvernement a raison? Il va falloir demander un effort pour arriver à trouver des sous pour le budget. Il va falloir demander un effort aux retraités les plus aisés. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, Antoine. D'accord ou pas?
Non mais déjà, on confond beaucoup de choses et Thierry Breton en premier en évoquant une taxe. Mais non, il ne s'agit pas de taxe. On parle d'indexation sur l'inflation. Les salaires des Français ne sont pas indexés sur l'inflation. Quand il y a de l'inflation,
le SMIC, oui.
Oui, mais la plupart. Oui, bien sûr.
Le SMIC.
Quand.
Salaire de base.
Quand j'étais salarié, l'inflation elle passait et chaque année j'avais pas une augmentation. Hein. Donc la plupart des Français n'ont pas leur salaire indexé sur l'inflation. Pardon. Et donc pourquoi les retraités auraient ça? C'est déjà le premier sujet. Ensuite, moi, je suis très pour réformer le système des retraites. En revanche, je n'aime pas du tout l'angle qui est pris. Pourquoi les plus aisés, encore une fois? Je rappelle que les retraites importantes, là, plus de 3000 euros, ce sont des gens qui ont plus cotisé que les autres. Et je rappelle également que il y a un plafonnement du montant de la retraite, mais pas de plafonnement du montant des cotisations. Et donc, oui, il faut revoir notre système des retraites. Mais pourquoi, encore une fois, dire qu'on ne va toucher qu'aux retraites importantes? Les gens ont cotisé plus que les autres.
Charles, écoutez, d'accord avec ça ou pas sur cette désindexation?
Plusieurs observations. D'abord, c'est en fait un quoi qu'il en coûte pour sauver le cornu. Et c'est ça la réalité. Oui. C'est qu'il s'agit, comme la dernière fois d'ailleurs.
Exactement.
On a enterré la réforme des retraites.
Elle a été suspendue jusqu'en 2028 pour que le gouvernement puisse tenir à l'Assemblée.
Oui, et surtout pour que l'Assemblée puisse tenir dans l'Assemblée, pour que Macron ne dissolve pas une nouvelle fois l'Assemblée nationale. Donc c'était un quoi qu'il en coûte pour sauver le cornu. Là, on est dans un deuxième quoi qu'il en coûte pour le fameux budget de cet automne, pour que tout ça puisse péniblement se traîner jusqu'au mois d'avril prochain et la nouvelle élection présidentielle, premièrement. Deuxièmement, Thierry Breton, qui, on le voit bien, lui aussi se rêve en candidat à l'élection présidentielle, il commence quand même, je trouve, très mal, puisque en réalité, il a bien intégré les codes électoraux en se disant « je vais pas me mettre à dos les retraités » alors que ça représente un vote très important. Puis surtout moi, qui passe à la télé sur des chaînes que les retraités regardent, parce qu'il n'intervient pas que sur BFM TV, il intervient sur d'autres chaînes, je ne vais pas me les mettre à dos. Donc moi, je suis désolé, c'est pas du tout le genre de profil que j'attends pour la prochaine présidentielle, où je pense qu'on aura besoin, sinon d'un De Gaulle, au moins d'un Churchill, d'une Margaret Thatcher, de quelqu'un de courageux.
Bah, t'as de l'espoir.
Et qui dise la vérité aux gens. Troisième observation. Moi, je serais même pour remettre au travail les retraités qui ont pris leur retraite trop tôt, déjà, parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de retraités qui ont pris leur retraite trop tôt. Et je pense, je serais pas forcément pour les mettre à contribution. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est réduire nos dépenses publiques. C'est bien commode, si tu veux, d'aller raboter quelques milliards par-ci, par-là, notamment avec cette désindexation, qui, je pense, va pas non plus concerner un très grand nombre de retraités, puisque les vrais retraités aisés, c'est pas l'État qui leur verse la part de leur retraite qui les rend aisés. C'est les complémentaires auxquels ils ont souscrit dans les emplois qu'ils ont occupés.
La désindexation, ça ferait économiser 6 milliards.
Donc ça permet de faire un budget qui tient à peu près
à de dire derrière, voyez, nous avons été courageux.
Non, mais.
Et si puis tu veux, comme le gouvernement, si tu veux, il s'en fiche.
Je saute pas au plafond.
Macron n'est pas là. Tu laisses ça aux autres.
Je saute pas au plafond en entendant ça. Je suis pas bouleversé à l'idée qu'on désindexe une partie des retraites. Il y a un moment donné, voilà, il y a un effort collective. J'observe d'ailleurs que les retraités sont très très sensibles. Hein. Il s'agit vraiment de rien toucher, de surtout pas. Bon, moi je serais assez pour, par exemple, leur faire payer une partie de leurs frais médicaux. Enfin, je pense qu'il faut assumer les choses aussi à un moment. Hein. Les scanners 3 fois par semaine quand on n'est pas malade, on n'est pas obligé tous de payer ça. Je veux dire, s'ils sont hypochondriaques, ils se démerdent aussi à un moment. Donc je serais pour être plus courageux. Et je pense qu'on peut réduire les dépenses publiques de manière plus drastique.
Fatima, je te donne la parole dans un instant parce qu'on a Max qui est du côté de l'Isère et qui est retraité justement. Max, bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Ça vous a fait bondir sur le 32-16 cette histoire-là. Pourquoi, Max?
Ah oui, non, ça suffit. Je vais vous expliquer vite fait. Depuis l'âge de 14 ans, je travaille. Je me suis battu pour travailler, pour avoir une vie maintenant qui est raisonnable. Et donc, ça continue. Il faut que ça s'arrête, ça. Quand vous voyez que Mélenchon, il touche 36 000 euros par mois, il a jamais travaillé, ce type, il faut que ça s'arrête, ça. Alors, pour être malade, les hypochondriates, pour votre collègue de travail à côté, je vous parle, monsieur, qui a eu j'ai un cancer du poumon, donc je suis obligé d'aller me soigner.
Et moi, j'ai dit les gens pas malades, cher monsieur.
Oui, en attendant, vous êtes tous, à un moment donné, vous êtes tous contre les personnes âgées, et ça commence à bien faire. Hein.
Non, vraiment, Max, le débat, il est toujours compliqué, parce que on n'est pas du tout contre les personnes âgées. J'adore mes propres grands-parents. J'ai plein de retraités autour de moi.
Est-ce qu'eux, ils t'aiment? Ça, c'est la question.
Tu leur demanderas.
Mais je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Je suis pas contre les vieux, j'ai des grands-parents.
On a juste, Max. Mais non, mais attendez, oui. vous voyez très bien où je veux en venir. Je ne veux pas qu'on aille dans le débat.
Je comprends, mais si vous voulez.
Débat générationnel. En fait, ça ne tient plus, Max. Ça ne passe plus. Financièrement, on ne peut plus.
Et encore une fois, Max, aujourd'hui, vous dites, j'ai cotisé toute ma vie, mais vous avez cotisé toutes les années où vous avez travaillé, vous avez cotisé pour ceux qui étaient actifs. Et aujourd'hui, ce sont les actifs qui cotisent pour vous.
Je le comprends. Voilà. Mais avant d'en arriver, si vous voulez, vous pouvez, honnêtement, avec le gouvernement, à l'heure actuelle, que ce soit les uns ou les autres, pouvez leur donner 2, 3, 4, 6, 7 milliards. Ils ne savent même pas s'en servir. Ils ne savent même pas ils en sont. On dirigerait notre bien à nous comme il y a longtemps qu'on n'aurait plus de maison, il y a longtemps qu'on vivrait dehors.
Max est assez dépité. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Max. Attends, Fatima, j'ai Jordan qui est là aussi. Jordan, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jordan, cadre, dites-moi. On désindexe ou pas alors?
Moi, comme j'ai 35 ans, je fais partie de la génération qui n'aura rien, hein, comme Antoine. Je pense qu'on se compte juste de débat. Le problème, c'est que le système par répartition n'est pas finançable. Rappel, en 2025, il y avait 415 milliards de retraites à verser. Les cotisations n'en couvraient que 305. Et 65 qui manquaient. Donc là, vous rabotez 6 milliards, le trou, il est toujours béant, hein, ça change rien du tout. Donc on se trompe juste de débat. Tant qu'on proposera le système par présidentiel pour 2007 qui propose le système par répartition, se trompe de combat. Ça ne peut pas être financé. Vous mettez 62, 64, 67 ans, ça ne changera pas le problème. Donc déjà, il faut poser le problème. Et alors, comme Max qui dit, j'ai cotisé toute ma vie, c'est vrai, mais si on verse les retraites en prorata ce que les gens ont cotisé, il faut un tiers. Donc, ils ont cotisé, c'est vrai, on ne remet pas en cause. Mais au prorata de ce qu'ils vont toucher à la retraite, les comptes ne sont pas bons. Ils auraient touché que 2/3 de ce qu'ils ont aujourd'hui.
Exactement, il y a des taux de reversement qui sont encore très hauts. Les retraités actuels touchent
donc
plus
que ce qu'ils ont
cotisé. Donc la
retraite par répartition n'est pas possible. Il faut que les gens le comprennent, et ça serait bien que ça soit quelque chose qui soit mis sur la table pour 2027, parce qu'on va encore avoir le droit, RN, LFI et compagnie, qui vont nous dire oui, on va mettre la retraite à 60, 62 ans en restant par répartition. Ce n'est pas possible. Vous pouvez tourner la chose comme vous voulez, avec le ratio de 1,7 sur 1 actif par retraité, ça ne passera pas. Donc je m'adresse aussi à tous les auditeurs là sur RMC, ça ne passera pas. Vous pouvez trouver un truc, ça ne peut pas passer.
Une question, vous, par exemple, puisque là vos cotisations du moment, elles servent à payer les retraités. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous faites à côté, vous, pour préparer votre retraite? Vous faites quoi?
Moi, j'ai un PEA, j'ai un CTO, j'ai de l'argent qui est mis hors de France parce que je sais que je n'aurai rien.
D'accord. Donc vous capitalisez à côté. Quoi. Ouais, d'accord.
Ah bah oui, moi j'anticipe le problème parce que de toute façon je sais que ce que je cotise actuellement c'est à fond perdu. Enfin, ça finance.
Ce sera pas à fond perdu, mais vous aurez un minimum. Donc vous dites voilà, je préfère m'en occuper moi-même. Jordan, je vous remercie d'avoir été avec nous. Fatima, qu'est-ce que tu en dis? Bonne journée, Jordan. Et dans un instant, on écoutera Mickaël qui est dans l'Oise.
J'en dis que J'ai pas l'impression. De plus en plus, je me dis, finalement, on n'est pas dans une démocratie, on est dans une espèce de démocrésie. Voilà, une démocratie un peu folle, où on traite les mêmes sujets pendant des années sans que ça avance, parce que au moment où Emmanuel, enfin où le gouvernement avait suspendu, je vous avais dit que ce truc de suspendre, c'était une catastrophe aussi, et on voit bien qu'il ne pense pas du tout à la France. Donc ça veut dire que jusqu'aux élections là, on va avoir la grande majorité des politiques qui ne vont pas parler pour dire vraiment quelque chose de pour sauver la France, ils vont parler pour sauver leurs fesses. Pour sauver la suite, pour être élu, pour se dire qui vote. Donc on va choyer les retraités. Je déteste ça. Là, on sait très bien depuis le début, et je vais répéter la même chose sur le sujet des retraites. On ne pourra jamais faire passer quelque chose en prenant qu'un aspect. Ça veut dire que c'est global. Et les gens sont capables d'entendre une réforme globale.
Oui, mais il y a un budget, à faire.
Non, mais ils n'ont pas envie d'être les dindons. Oui, ça veut dire, et de la même manière, quand on dit oui, les retraités sont égoïstes, vous savez qu'il y a plein de retraités. Déjà, qu'est-ce que c'est un retraité aisé? À partir de quand? Donc moi, ce que je veux.
3 000, on considère.
Voilà. Donc on va voir. Et on voit aussi que certains prennent soin de leur famille. Parce qu'il y a des familles aussi où le retraité
prennent soin d'eux-mêmes.
Non, mais il y en a qui prennent. Mais il y a aussi des retraités. Il y a des solidarités familiales. Il y a des choses aussi comme ça.
Entre deux costas croisières, ils vont voir les petits-fils.
Non, mais attendez, moi c'est pas mon cas. Alors là, c'est pas mon cas. Mais il y a des familles où c'est le cas. Non, mais vous caricaturez.
Non, mais il y a des gens.
Caricaturez complètement les vieilles personnes parce qu'il y en a pas. Il y a pas de retraités ici autour de la table.
Fatima.
Oh, comme t'as regardé. Alain, il t'a regardé.
Bientôt.
J'ai dit, il y a pas de vieilles personnes. Il t'a regardé. Ça m'aurait pas.
On a Mickaël qui est avec nous, il est du côté de l'Oise. Bonjour Mickaël.
Bonjour les grandes.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Mickaël, alors?
Ah ben moi je dis que à 3000 euros, on est le roi du pétrole quand on est retraité. Et c'est indécent de parler d'indexation et d'augmenter ses retraites. Faut penser aux gens qui n'ont pas 3000 euros. Moi je pense par exemple à ma mère qui se verse 300 euros tous les mois parce que sinon elle meurt de faim. Donc je veux bien les gens. J'ai cotisé, j'ai travaillé, oui. Ça c'est bien. Maintenant, à 3000 euros, tu peux largement partager. T'as pas besoin d'être indexé et d'augmenter au taux de l'inflation. Donc non, moi je suis pour ça. On n'indexe pas les retraites à plus de 3000 euros parce que c'est indécent. C'est vraiment indécent.
Oui, voilà. Et la légende urbaine des retraités, la légende urbaine.
Non, mais c'est moi qui parle, s'il te plaît. La légende urbaine des retraités qui avaient des petits enfants, bah en l'occurrence non, hein. Parce que quand ta mère, elle a eu 5 ou 6 enfants. Qu'elle a eu une carrière complètement hachée. En fait. Ben, elle n'a pas 3000 euros de retraite. Elle n'a pas les moyens de se permettre d'aider ses enfants, ses petits-enfants. Quand les parents, quand les reversions, quand les parents divorcent, tous les cas. En fait, vous prenez un cas unique d'un grand-père qui est riche, parce que j'en ai eu, et qui a pu aider ses petits-enfants. Voilà. Mais ça, c'est pas la vie. C'est pas la vie des gens. La vie des gens, c'est les retraités. Ils crèvent la faim. Ils se soignent pas. Ils ont faim.
Mickaël, attendez. Les statistiques disent le contraire.
Arrêtez avec les statistiques.
Mickaël, les statistiques disent que nous sommes un des rares pays où les retraités ont un niveau de vie supérieur aux actifs.
Statistiquement, la France est la 7e puissance du monde et pourtant on a des retraités qui ne soignent pas. On a combien? 20% de personnes sous le seuil de pauvreté. Statistiquement, on est la 7e puissance du monde.
Nos retraités sont pas maltraités.
Là où Mickaël a complètement raison, c'est que les statistiques ou les moyennes ne veulent pas dire grand-chose tant il y a de grandes différences entre des retraités comme mon père qui est ouvrier et quelqu'un qui va être retraité avec d'autres moyens. Mais Mickaël, j'aimerais bien savoir, que faisait votre mère comme travail?
Alors, ma maman, elle a eu 7 enfants. Donc, elle a fait des petits boulots. Elle a travaillé très vite parce qu'elle, elle a fait un enfant très vite. Voilà. Donc, elle a pas.
Oui, mais on ne peut pas ramener ça. Je comprends, Mickaël. Hein. Oui, mais si chacun ramène ça, vous voyez, comme il y a quelques instants, notre ami retraité qui disait, moi, j'ai commencé à travailler, je me suis crevé la paillasse, j'ai 75 ans. Chacun ramène ça.
Non, parce qu'il dit, sa mère existe aussi et c'est un profil dont on n'entend pas parler.
Non, parce que vous parlez tous de réarmement démographique, de faire des enfants. Qui fait les enfants? Les femmes font des enfants. Qui a les petites retraites? Les femmes ont les petites retraites. Qui a les petits salaires? Les femmes ont les petites retraites. Maintenant, si vous mettez les salaires des femmes au niveau des salaires des hommes, c'est 6 milliards de rentrées. Ah bah oui. Alors faut arrêter avec le patriarcat.
C'est pour ça que c'est systémique le changement.
Faut arrêter de regarder les hommes. Pensez les humains. Les femmes font partie des humains. Donc pensez à traiter les femmes comme on traite les hommes. Si on traitait les femmes comme on traite les hommes, il n'y aurait pas de problème. Aucun problème. Vous savez d'où vient le Viagra? Combien on a investi pour trouver le Viagra? Qui sert du Viagra à part les hommes? Combien on investit pour l'endométriose? Arrêtez de regarder tous les problèmes de la société par la lorgnette
masculine. Vous n'allez pas être déçu, et je vous remercie d'avoir été avec nous, vous n'allez pas être déçu par notre sujet de 11h tout à l'heure, quand on va parler de Karine Lemarchand, qui estime qu'aujourd'hui on est en train de castrer les hommes, que le nouveau féminisme castre les hommes, et qu'elle, ce qu'elle aime, ce sont les mâles alpha. Mais ça, ce sera tout à l'heure à 11h. En attendant, et je vous remercie d'avoir été avec nous, Mickaël, ça a été son coup de gueule, ça venait de loin, de son vécu aussi. Est-ce qu'il faut absolument désindexer les retraites à partir de 3 000 euros. Certainement pas 51. Oui, 48. Vous êtes très partagé. À suivre dans les GG, dans les grandes gueules, le Conseil constitutionnel qui a censuré la loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Elle n'est pas adaptée, mais le président veut quand même y aller. Il veut une loi robuste sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et Gabriel Attal, il veut même que ce soit un référendum, par référendum que l'on décide. Est-ce qu'il faut absolument cette loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? 32-16 pour venir en parler avec les grandes gueules.
RMC, 9h, midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Fatima Idounoua, professeur de français, Charles Consigny, avocat, et Antoine Dierce, consultant juridique. Les réseaux sociaux, les interdire aux moins de 15 ans, la loi a été passée, sauf que le Conseil constitutionnel l'a censurée. Le Conseil constitutionnel a estimé que ça portait une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la liberté d'expression et communication des plus jeunes. Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, s'est félicité en disant « Voilà, on a mis à bas un flicage numérique du peuple. Sébastien Lecornu doit proposer une nouvelle réaction d'un texte juridiquement robuste. » C'est ce à quoi tient le président de la République. Gabriel Attal, lui, veut un référendum. Et les parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en disent ?
Le référendum, pourquoi pas? Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça soit bloqué jusqu'à 15 ans, ça me dérangerait pas.
Les parents se sentent un peu débordés par tout ce qui se passe et qu'on a vraiment besoin, nous, en tant que parents, du soutien du gouvernement. Et donc, ça passe par un référendum pour qu'il y ait la protection de l'État, tout simplement.
Interdire pour interdire, pas spécialement. Il y a peut-être des questions plus importantes dans la vie politique qu'un référendum sur les réseaux sociaux.
Alors, est-ce qu'il faut absolument cette loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Ce sont tes élèves, ça, Fatima?
Oui. Et c'est, en tout cas, c'est un sujet très important. Le référendum, j'ai l'impression que c'est un peu un gadget pour gagner du temps. Parce que référendum, quelle sera la question? Et qu'est-ce qu'ils vont faire de la réponse? Donc, je vais mettre de côté le référendum. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme pour le tabac. Il y a des très, très, très gros intérêts financiers derrière. Je vous conseille un documentaire qui s'appelle « Emprise numérique, 5 femmes contre les Big Five ». C'est Élise Jadot qui a fait ça et qui montre comment, pour les très grosses boîtes derrière les réseaux et les plateformes, l'ado, c'est surtout c'est la cible parfaite. C'est un client, c'est un consommateur, mais le consommateur qui peut rapporter le plus et puis surtout qui est le plus facile à manipuler et à avoir. Donc il y a cet enjeu, et cet enjeu est tellement important, ne soyons pas naïfs, que Meta, en tout cas Meta est devenu le premier lobby auprès de l'Union européenne. Ça veut dire que techniquement, ils ont mis, je regardais la somme, Meta a mis 10 millions déclarés pour faire du lobbying. Je suis donc vraiment, c'est un enjeu qui est en train de...
Et tu es pour l'interdiction ou pas?
Moi, je suis vraiment pour un cadre très clair et pour l'interdiction, mais il faut voir comment faire pour que ce soit de la sécurité, notamment contre la pédocriminalité, pour tout ce qui est sécurité, parce que vous savez, un enfant qui va sur les réseaux sociaux, très souvent, il va avoir, par exemple, pour une jeune fille, du contenu pro-anorexie. Des contenus de suicide très rapidement, en très très peu de temps, et puis des pédocriminels qui vont aller vers lui. Les parents doivent sécuriser, bien entendu.
Non, c'est plus le rôle des parents que de la loi.
Mais bien entendu, mais il y a des choses qui vont échapper aux parents. Donc, et les parents doivent bien sûr s'informer et tout ça. Les premiers, c'est les parents. Il n'y a aucun souci sur ça. Je ne conteste pas, il n'y a aucun souci. Mais contrairement à plein d'autres sujets, on est face à un monstre puissant. dans le sens Charles. Où voilà, c'est un peu David contre Goliath. Les parents contre vraiment la tech et l'addiction que ça peut faire, il faut armer les gens aussi. Donc aider, et notamment sur les deepfakes. Moi, je suis pour la vraiment que la loi aille s'intéresser aux deepfakes, à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour modifier les visages, parce que les problèmes que je rencontre avec mes élèves.
Oh, mais ça, c'est de l'éducation, non, c'est pas en interdisant.
Regarde. Mais si, il y a beaucoup d'enfants là qui vont faire du revenge porn. Ça veut dire tu te venges d'une ex. Donc la fille a envoyé une photo, par exemple, et tu vas soit faire circuler la photo ou faire des photos porno à partir de la photo. Ça, c'est les enjeux dans les 10 ans à venir. Moi, dans 10 ans, quand vous aurez des suicides de jeunes filles, vous direz, ah, on aurait dû y penser plus tôt. Pensez-y dès maintenant.
Il n'y a que l'Indonésie et l'Australie qui ont mis en place pour le moment l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans.
Les Charles, et tout
est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de persister et Gabriel Attal de vouloir même un référendum là-dessus?
En fait, moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, cette histoire d'interdiction pour les mineurs de 15 ans, les mineurs moins de 15 ans, pour sensibiliser les parents, en réalité. En revanche, si ça devient un truc où il faut mettre sa carte d'identité dès qu'on va voir une vidéo sur Instagram, non. Moi, ça m'emmerde. Je pense qu'il faut garder de la liberté et que je tiens pas forcément, si tu veux, à renseigner mon passeport dès que je veux envoyer dès que je veux aller sur Twitter. Je suis assez pour l'anonymat. Enfin, moi, je m'en fous un peu. J'aime bien le côté Far West, en fait, des réseaux sociaux qui, pour l'instant, échappent aux esprits chagrins qui veulent tout interdire, tout réguler.
Parce que t'es adulte. Mais Far West pour enfants, avec les pédocriminels, tout ça.
Oui, mais je ne voudrais pas que ça empiète, si tu veux, sur le côté très libre, pour l'instant, pour les adultes, des réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il faut un référendum et tout ? Faut peut-être pas exagérer. Ils peuvent rédiger leur loi en se conformant à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel et peut-être qu'ils pourront faire passer leur...
Mais le Conseil constitutionnel, c'est intéressant, parce que là,
c'est contraire au droit de l'Union européenne, notamment.
Il parle de liberté, de restriction de la liberté. C'est dans l'expression des adolescents. C'est ça qui est intéressant. C'est pour une fois d'entendre un législateur, mais un surveillant comme le Conseil constitutionnel.
C'est très intéressant.
Oui, tu as raison. Vas-y, je te laisse développer. Attention, on touche à un droit fondamental qui est celui de la liberté. Quoi.
Alors, voilà, c'est fascinant. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est vraiment aberrante parce que le même jour, il valide la loi euthanasie sur l'aide active à mourir, en considérant qu'un malade perclus de douleur est libre de décider de mourir et qu'il n'y a pas besoin d'avoir recours à un psychiatre. Et le même jour, il dit « Ah non, on peut pas interdire à un enfant de 15 ans, de moins de 15 ans, d'aller sur TikTok. » Donc, tu vois le côté complètement aberrant.
C'est pour ça, faut voir les lobbies.
Sur les libertés les plus fondamentales, il est absent. Et sur des choses... Moi, je suis pas favorable à l'interdiction, mais il y a une décision politique, il y a un vote du Parlement. Et bien là, il brandit la carte de la liberté. Alors, moi, je pense vraiment que le Conseil constitutionnel sort complètement de son rôle. C'est un monstre juridique, un monstre politique. C'est des gens nommés par Macron aujourd'hui, pour l'essentiel, et par le président du Sénat, et qui sortent complètement de leur rôle au point de bloquer une volonté légitime, populaire et un vote. Et pour que Gabriel Attal, représentant parfait de l'extrême-centre, en arrive à proposer le référendum, c'est parce que le référendum, c'est la seule option pour tenter de contourner le monstre qu'ils ont eux-mêmes créé avec le Conseil constitutionnel. Et donc, moi, sur ces sujets-là, sur le Conseil constitutionnel, je pense que, au-delà de la question un peu ridicule de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, je pense qu'on a un souci démocratique majeur. Cette cour de gens nommés se permet de bloquer des textes, et celui-là, c'est pas le plus important, mais tous les textes sur l'immigration, ça a été bloqué. Tout le monde pense qu'en France on a des quotas d'immigration. Le Conseil constitutionnel les a bloqués. Pour moi, c'est le sujet principal. C'est comment le peuple a été dépossédé de son pouvoir politique par des gens nommés.
On a Alexandre qui veut réagir, qui est du côté du Morbihan. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Vous êtes pour la loi ou pas? Il faut absolument une loi d'interdiction ou pas?
Moi je suis carrément pour.
Pour interdire au moins de 15 ans?
Pour interdire, oui, carrément.
Pourquoi?
Moi, je vous écoute régulièrement et c'est vrai que souvent, on voit très bien qu'un des plus gros problèmes de nos ados, c'est le les réseaux sociaux, on a quand même eu des suicides, des gens qui ont arrêté leurs études, enfin qui peuvent plus retourner à l'école, enfin des cas hyper graves. Et
vous avez des enfants?
Ouais, j'ai une toute petite qui a 5 ans, mais j'ai une deuxième qui a 9 ans, et dans 2 ans, c'est le collège.
L'intérêt, c'est surtout de parler avec elle, d'échanger avec elle, de la mettre en garde. C'est ça votre rôle de père, Alexandre?
Oui, je suis totalement d'accord, mais nous, on échange beaucoup. J'ai une grande confiance en elle. Mais c'est vrai que quand on discute un peu avec les autres parents, nous notre objectif c'est de pas lui laisser de téléphone portable avant 15 ans, avant voilà. La troisième. Mmh.
C'est la meilleure solution.
Même des gens, je sais pas si j'utilise des bons, mais même des gens éduqués offrent des portables à leurs enfants.
Donner un portable à son enfant quand il est adolescent, de toute façon, moi je trouve ça normal. Ce qui est pas normal, c'est effectivement
après 15 ans.
Ouais, mais même
avant un iPhone à 14 ans.
Mais
c'est tout.
Oui, pourquoi pas. Mais bien sûr. Mais si ça fait partie. Si tu veux, les gamins aujourd'hui sont tous connectés. Même si à 14 ans il l'a pas, le tien, il va aller chez des copains ou il va passer chez des amis qui l'auront et ils seront. Mais si ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc je pense que plutôt leur mettre l'outil dans la main en leur expliquant que c'est un outil qui a du bon et du mauvais et tu fais de la pédagogie et tu expliques. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que de toute façon, dès qu'il aura dans les mains, en 5 jours, il va aller beaucoup plus vite que tout le monde. Et si tu lui dis, voilà ce à quoi ça va te servir, et que tu en fais un peu avec lui, je pense que c'est la meilleure des armes. Et en faisant de la pédagogie.
Là, je suis désolée, mais t'es naïf sur une chose. T'es naïf sur le pouvoir des parents. Donc moi, je suis d'accord. Les parents sont nécessaires. Mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Dans le sens où, face à ça, TikTok eux-mêmes, il y a des rapports internes où eux-mêmes reconnaissent et camouflent qu'il y a un impact important sur la santé mentale. Vous vous rendez pas compte que d'un point de vue sanitaire, moi je pense que c'est exactement comme la cigarette, où maintenant on regarde, il y a quelques années, les gens qui fumaient dans les voitures, partout, et il y a des choses qui nous semblent aberrantes. On se dit, oh là là, on faisait ça et personne ne disait rien. Je pense que dans quelques années, on va se dire, oh là là, il y avait des jeunes enfants là, on les laissait aller, les gens se rendaient pas compte à quel point c'était destructeur pour le cerveau. On parle de pourrissement du cerveau. Il y a un nouveau mot en anglais pour parler du cerveau qui pourrit à cause de scroller comme ça. On a des enfants doigts. C'est quoi un enfant doigt? C'est l'enfant en maternelle qui va.
Enfants, paraît-il, sur les livres qui essayent d'agrandir la photo du livre.
Qui essayent d'agrandir comme ça avec leur petit doigt. Mais donc pendant longtemps, on s'est dit ça, c'est à cause des parents démissionnaires. Mais même des parents qui sont derrière, même des parents qui ne donnent pas de téléphone. Moi, mon fils, théoriquement, il n'a pas d'iPhone. Je peux vous assurer que la dernière fois, j'ai découvert qu'il avait un compte Snap. Comment il a fait?
Il l'a fait chez des potes.
Il l'a fait sur le téléphone de son père, en mettant entre cachets et en se cachant dans les toilettes pour y aller.
Tu donnes de l'eau à mon moulin. Il vaut mieux accompagner et aider, bien sûr. On a posé la question sur les réseaux sociaux, je remercie Alexandre qui était avec nous, et lui, il est plutôt pour la loi d'interdiction. Est-ce qu'il la faut absolument, cette loi d'interdiction sur les réseaux sociaux, pour au moins de 15 ans?
Il faut qu'elle soit claire,
surtout. Non à 65%. Karine Le Marchand, une interview à TV Magazine, elle joue encore les grandes gueules. Je ne me reconnais pas du tout dans le féminisme actuel, il a un côté anti-mec, moi je veux des mâles alpha. On est en train de castrer les hommes. Est-ce qu'elle a raison? Vous venez en parler au 32-16. Il est 11h05.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.